politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, qui a mis plus de 48 heures avant de se rendre sur place.
Ah, le mot choc, il est trop petit pour dire à quel point il y a eu une absence totale.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
très jolie, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Et auditrice, bonjour. Lola Lafont est l'auteur de 7 romans, dont « Quand vous écouterez cette chanson », dans lequel elle raconte sa nuit passée dans le musée Anne Frank, objet d'une précédente émission. Il n'a jamais été trop tard, l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, reprend des chroniques écrites entre janvier 2023 et novembre 2024 pour le journal Libération. L'auteur nous invite à prendre de la distance avec l'actualité et nous fait partager ses réflexions politiques et son expérience personnelle.
Entre 1994 et 2003, j'ai vécu dans ce qu'on appelle aujourd'hui une fragilité économique assumée. J'avais suivi une formation de danseuse depuis l'enfance, mais les blessures répétées m'avaient forcée à arrêter. Renoncer à vivre de ma passion était un deuil. Si j'écrivais tous les jours, c'était sans oser songer à en faire un métier. Je ne cherchais pas ma place sur l'échelle sociale et la possibilité de ne jamais en avoir ne me peinait pas. En revanche, consacrer mes journées à quelque chose que je n'aimerais pas totalement était exclu. Il faudrait accorder mes besoins à mes moyens et pas l'inverse. Pour subvenir aux nécessités journalières, je fus serveuse dans un salon de thé, un restaurant, vendeuse dans des boutiques de prêt-à-porter et des parfumeries. Je répondis aux milliers de lettres d'amour que ses fans écrivaient à un chanteur. Je travaillais comme hôtesse d'accueil d'une compagnie d'assurance, d'une maison de disques et, au Mondial de l'Auto, je fus figurante et enfin assistante traductrice auprès d'un coach d'acteurs américains. Cette succession d'emplois suscitait parfois l'étonnement et, à près de 30 ans, ça n'allait nulle part. N'avais-je pas envie de faire quelque chose de ma vie? Ce nulle part, en vérité, était un espace et il m'appartenait. Un lieu préservé, libre d'enjeux et de plans de carrière, où écrire. L'écriture ne promettait rien, mais permettait tout. On ne pouvait rien en exiger, mais il faudrait tout lui offrir. 20 ans ont passé. Cet hiver 2023, je prends le train 3 fois par semaine, invité à ce qu'on appelle des rencontres littéraires, des festivals du livre. Une rencontre est, pour le dictionnaire, le fait de se trouver fortuitement en présence de quelqu'un, le croiser sur sa route ou se trouver pour la première fois en sa présence. La rencontre littéraire contredit quelque peu cette définition, puisqu'elle est prévue, organisée, elle n'a rien de fortuit. Les discussions y sont chronométrées. 1 heure et demie, question des lecteurs comprise. Dans chaque ville et à chaque parution de roman, je reconnais ces visages familièrement inconnus. De leur vie, je ne sais rien, sauf ce qui nous rassemble. On se raconte des histoires avec foi et constance. Nous sommes liés par des êtres chers, qu'ils existent ou pas, des personnes qu'on dit personnages. Ces rencontres sont le rendez-vous d'anciens enfants devenus de discrets fraudeurs de réel. Si je ne sais plus dans quelle ville elle a eu lieu, je n'ai rien oublié de cette conversation-là, en février. Elle est assise au premier rang, la jeune fille a une 15aine d'années. Lorsque vient le moment des échanges avec le public, sans attendre qu'on lui passe le micro, elle lève une main vers moi comme au lycée. « Bonjour, croyez-vous en Dieu ?» Dans la salle, on se tourne vers elle. Certains sourient, amusés. D'autres sont interloqués. Quelle curieuse question ! Je ne sais pas répondre rapidement à ceci, je lui dis. Elle hoche la tête. « Ok, mais si vous croyez, même un peu, poursuit-elle, avez-vous pensé à votre rencontre un jour avec Anne Frank ?» Certains s'agacent. Pourrait-on revenir à de vraies discussions plus littéraires ? L'animatrice de la soirée s'apprête à donner le micro à un monsieur, mais la jeune fille reprend. « Me suis-je déjà demandé ce qu'elle me dira, Anne Frank, le jour où je la rencontrerai ?» Elle me regarde. Elle attend. Elle règne sur le silence qu'elle a instauré. Il y a ce jour-là une frontière palpable entre l'adolescente qui n'a rien à faire de la pudeur d'inconditionnel et nous, les grandis, qui ne croyons plus tout à fait au futur. Comme ils ont tort, ces adultes dans la salle qui prétendent que la jeune fille ne parle pas de littérature. En quelques mots, elle propose un monde, un au-delà pragmatique dont les dieux sont absents. Elle donne corps aux mots et nous emmène dans la fiction. Ce face-à-face qu'elle imagine, l'a-t-elle déjà écrit ou est-ce un rêve ? Lui demande une femme dans le public. C'est un peu pareil, rêver ou écrire, répond l'adolescente. Les mots de la jeune fille ne me quittent pas de l'hiver. Une phrase en particulier, une image, flotte comme un chagrin. Elle m'est chère. Je ne l'écris pas ici, elle est au secret d'un carnet. Là, dans un document Word ou dans la mémoire de mon téléphone, j'empile des paragraphes, un désordre de phrases entendues, lues, ci et là, des faits d'actualité aussi, ou bien des passages d'un livre à relire. Ces notes sont une matière, des couleurs, des textures, des humeurs disparates, un puzzle qui ne révèle aucun paysage connu. À quoi servent-elles ces notes ? À rien de précis. Les mots ne servent pas. Ils ne sont pas à notre service. Ils se prêtent à nos tentatives. On essaie de rattraper ce qui se dissipe, on revient sur ses pas et sur ceux des autres, on ne quitte pas trop vite les lieux, on tente de contredire notre persistance à avancer. Écrire comme on retient, par la main ou par le cœur. Comme on raconte à un ami des silhouettes furtives, à peine rencontrées, tout juste croisées. Dans le train, j'entends une femme dire qu'elle a coché toutes les cases qui comptent dans la vie. Peut-être écrit-on aussi pour garder la trace des cases qu'on aura sautées, par inadvertance ou par choix. Celle dont on se sera extirpé aussi. Le langage est un geste, écrire un mouvement.
Été. Quelques semaines avant le début de l'été 2020, une association me contacte.
Serais-je prête à aider un enfant isolé, en difficulté scolaire, à faire ses devoirs ? Sur la photo qu'on m'envoie par mail, il pose, les mains dans les poches, les cheveux ébouriffés, le lacet de sa basket gauche à moitié défait, l'œil narquois. Un gamin de fiction, de ceux qui dans les films jouent savamment l'enfance. Ses devoirs sont à l'abandon, le mien de devoir sera de l'encourager à y replonger. De ce petit garçon, on dit qu'il est dans une situation compliquée. Les adultes tournent autour des mots comme de vieux insectes peureux. Compliqué, pour ne pas dire fragile, vulnérable. La coordonnatrice m'explique « D'ordinaire, on se parle par visio, mais A n'a que rarement accès à l'ordinateur de sa grande sœur, le seul de la famille. Le père a bien un téléphone portable, mais il est absent, travaille toute la journée. On n'aura donc que le fixe à disposition. « Bonjour !» dis-je intimidée par la voix dont je ne sais s'il s'agit de celle de sa mère ou de sa sœur. « Je voudrais parler à A. » A me rassure d'entrer. Tout ira bien. Ne pas avoir d'ordinateur n'est pas un problème du tout. Il me lira la consigne de l'exercice. Il pourra aussi me réciter des poésies. Jurez, il ne jettera pas un œil à son cahier. Et je lui dirai s'il a bon. Tu vois, Lola ? Il me tutoie comme il le ferait avec une copine de classe, m'explique les usages avec gentillesse, me détaille les habitudes de sa maîtresse. Il plante un décor dont il s'est éclipsé. Je le sais, il ne s'est connecté à aucun cours depuis une bonne semaine. Quand il écrit, je l'entends qui s'applique, le souffle léger. Quand il connaît la réponse à une question, il s'écrie « Moi, je sais !» Je l'imagine qu'il lève la main. Quand il est incertain, il lance une jonglerie joyeuse de réponses improvisées. 8 × 7, 48, et les Pays de la Loire sont des îles peuplées d'un genre de gros koala. Il s'amuse de me prendre en flagrant délit d'ignorance. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches sur Wikipédia ?» Puis magnanime, « Normal, personne ne sait ça. Le nombre de régions en France ni le nom des arbres constituant la taïga européenne. » À l'autre bout du fil, le petit garçon me réconforte. « T'inquiète, Lola. » Il s'applique à me décrire avec précision un croquis de géométrie. « C'est un carré, mais il est plutôt allongé. » L'enfant, rapide, me scrute sans même me voir. Dès lors que je marque une pause, feuilletant fébrilement les photocopies du manuel envoyé par l'association, il propose qu'on passe à autre chose. « Si tu ne trouves pas l'exercice, c'est pas grave, on le fera demain. C'est déjà très gentil de vouloir l'aider, merci. » Même s'il n'est pas vraiment en difficulté. Avant le virus, la dame de l'association venait à la maison et il avait bien remarqué qu'elle s'affolait vite. Me confie-t-il compatissant. Les exercices de maths, le texte de français, il les a très bien compris. Ils sont presque terminés. Presque, mais il n'a pas eu le temps de s'y remettre. D'ailleurs, là, il va falloir qu'il raccroche. On se rappellera demain. Il doit s'occuper de son petit frère et aider sa mère à préparer le repas. Il quitte sa place d'écolier, d'enfant, comme on se défait d'un costume, d'une panoplie qu'on abandonnerait sur le sol de sa chambre. « Salut Lola, bonne soirée !» Lors de notre quatrième rendez-vous téléphonique, la conjugaison « d'aller » nous entraîne dans un dialogue animé. Ce verbe est un traître. Il ira, nous allons. Comment un mot peut-il se métamorphoser en un autre tout en conservant le même sens ? Et quel est mon verbe favori ? Lui aime beaucoup « cheminer », même si c'est un très vieux mot. Il est joli. Pourquoi l'aime-t-il ? Eh bien, parce qu'on ne sait pas si on parle des cadeaux du Père Noël ou d'une promenade. Il voudrait bien savoir comment s'appelle ce que je suis en train de faire, là, avec lui. Suis-je payé pour l'aider ? Il vagabonde, les motifs vifs et pointus, un pépiment, impossible de l'arrêter. Comment est-il mon appartement ? Est-ce que mes fenêtres donnent sur des arbres ? Il aimerait bien en planter un d'arbre dans le centre de Paris. On se souviendrait de lui et lui se souviendrait de l'arbre. J'habite dans le centre ? Non, nous sommes quasiment voisins, lui dis-je. Il est stupéfait. Si ça se trouve, on s'est vu ? Obligé, c'est logique. Bon, il sait que je ne suis pas super forte en logique, ajoute-t-il. une référence à un exercice sur lequel j'ai séché. On pourrait aller se balader un jour dans le centre, après le virus. Il y aura un cinquième appel. Sa voix, un fil tendu, sa respiration courte, ses pensées emmêlées, derrière lui des cris, des pleurs d'enfant. L'imparfait de quoi ? Il ne sait plus. Pourtant, il l'a relu, la leçon. C'est énervant, il l'a oublié. De toute façon, à quoi ça sert ? Il sait déjà le métier qu'il veut faire plus tard. Rien à voir avec tout ça. On s'entend mal. Je promets de le rappeler le lendemain. Mais, le soir même, c'est lui qui me rappelle, chuchotant. Tout le monde dort. Il sait qu'il devrait aller se coucher, mais il n'a pas sommeil. Il voudrait parler d'autres trucs que d'école. La dame de l'association dit que tu écris des livres. De quoi parle-t-il ? Est-ce que ça me rend triste que les histoires que j'invente n'arrivent jamais ? Il pourrait venir chez moi un jour. Pour le goûter, il aime tout. Pas de problème. Et est-ce que je pourrais lui acheter des feuilles à dessin, des crayons de couleur ? Comme ça, il pourra me faire un cadeau. Oui, bien sûr, on fera ça après le confinement. Mais il faudrait que demain, on termine les exercices de « Je suis là pour t'aider à… » T'en fais pas, Lola, j'ai tout compris au devoir, aucun problème. J'acquiesçais. Tous les deux, nous nous appliquions à faire comme si on y croyait, à son affirmation « aucun problème ». Le numéro de téléphone que vous tentez de joindre n'est plus attribué. La famille avait dû quitter la chambre meublée dans laquelle ils vivaient à cinq. Ils seraient bientôt relogés en grande banlieue. Il faudrait attendre d'avoir des nouvelles pour reprendre les leçons. Sur une échelle de 1 à 10, pourriez-vous estimer la réussite de votre action ? Me demanda une voix calme à l'autre bout du fil. Au cœur de ce début d'été étrangement radieux, où on remerciait de quelques applaudissements des corps épuisés, où on s'émerveillait des canards égarés devant la Comédie française, un enfant a disparu. Il s'est évanoui dans la ville. Un gamin parmi d'autres, une photo datée, rangée dans le fichier d'une association. L'éducatrice avait promis de me prévenir des cas ressurgiraient. J'imaginais le petit garçon aux cheveux ébouriffés, en costume bleu de super-héros, parcourant le ciel du 18e arrondissement, qui toquerait à ma fenêtre au 7e étage. T'inquiète, Lola. Cet été-là, j'ai failli. Sans doute le constatait-il sans s'en étonner. Toutes les enfances n'ont pas la même durée. La sienne était une enfance de ballotté, d'exilé, auquel on avait attribué une aide qui ne l'aidait pas vraiment. Elle est triste, cette délicatesse des enfants. Ils nous épargnent quand on échoue à les protéger. Ils le savent, leur enfance est une fiction dont ils sont les petits acteurs consciencieux. S'ils y jouent à l'enfance, c'est pour nous. Les feuilles de papier à dessin et les crayons de couleur sont toujours sur mon bureau. Sans doute en sourirait-il. Il doit avoir 13 ans maintenant. C'est des trucs de bébé, les coloriages. Post-scriptum. Que deviennent-ils les mots qu'on n'a pas dit ? Que deviennent-ils les gestes qu'on n'a pas faits ? Sont-ils quelque part, stockés dans notre cerveau, une réserve de belles intentions dans laquelle on imagine qu'on piochera un jour un airbag existentiel ? Ou au contraire, les gestes qu'on n'a pas faits, les mots qu'on n'a pas dit s'accumulent, s'agglomèrent et ils se calcifient, nous enferment dans un ciment de regrets.
Carried through time, I'm here with you.
Automne. C'est une prison dans laquelle on s'enferme de son plein gré, lentement, progressivement. L'espace clos d'une fin organisée et maîtrisée. Cette fin, on la portera comme on brandit un drapeau. On l'apprivoisera, l'instaurant en règle de vie. On l'habitera ce vide à la manière d'un territoire. On se jurera de ne jamais rien concéder, de ne jamais rien céder en rien. L'anorexie est un monde duquel les mots échappent. Ils sont à l'étroit. Les chiffres règnent. Combien de calories dans cette bouchée? Combien de kilos perdus depuis l'été? Combien de journées exaltées par un sentiment de maîtrise de soi, de puissance? C'est une maladie déguisée en volonté de faire, en triomphe. On a gagné. Mais quoi? Loin de la dépression dans laquelle on tombe, là, au contraire, on s'élève, ivre d'avoir vaincu. Mais quoi? On garde le contrôle. Mais de quoi? On compte, on recompte, on soustrait, on divise. On quadrille son chemin pour y trouver un sens, fût-il mathématique, traçant des règles et instaurant des lois implacables, régnante et esclave de soi-même. On s'acharne à pousser la vie sous une toise, on pèse, on mesure. Cesser ou presque de s'alimenter est un geste de défi, une déclaration de guerre, c'est dire « voilà ce que de votre monde on n'avalera pas, jamais ». Combien de temps avant la chute? Car on tombera et on devra être soigné, enfermé dans une chambre d'hôpital, isolé de tout. Là, on sera soumise à une autre privation, celle d'écrire. On se verra confisquer ses cahiers, son stylo. Ils seront l'objet d'un chantage médical. On n'aura le droit de réécrire quand on aura cédé, quand on aura compris la leçon, quand on mangera. On saura alors, intimement, que l'écriture est une arme et qu'elle doit être protégée à tout prix. Pourquoi les femmes parlent-elles cette langue-là de la disparition pour signaler leur présence? Pourquoi s'aventurer si près du bord? Pourquoi s'amenuiser pour dire qu'on a tant à dire? Si la force de décision est une arme, pourquoi la retourner contre soi? Ce vertige de la faim, par quoi le remplacer? C'est un début d'automne ordinaire, j'ai 13 ans. Dans les Landes où j'ai passé les vacances, tous les après-midi je m'évade dans la forêt à vélo, roulant à toute allure dans les chemins sablonneux. Être hors d'haleine est un but, s'essouffler, une nécessité. La vitesse permet-elle d'échapper à soi-même? La solitude est tangible, elle est épaisse, une glu. Elle prend au cœur, elle coupe le souffle et la faim. Un matin, ma mère me tend un petit paquet, un cahier bleu tout simple. Il n'a pas le charme enfantin des journaux intimes, des petites filles dotées d'une serrure et d'une clé miniature. À la première page, je découvre qu'elle a écrit quelques lignes au crayon. Puisqu'il est devenu si difficile de se parler, puisque je ne connais plus que le langage de la privation, de la soustraction et du refus, puissent ces pages blanches me comprendre mieux qu'elle ne parvient à le faire. Qu'elle soit le lieu d'une conversation, même si elle reste secrète. Ce cahier, à la couverture d'un bleu pâle, ne sera ni un journal ni un roman. Il se remplira de textes courts, des portraits de proches à qui on n'ose pas dire sa peur de les perdre. Des textes acérés, observant sans pitié les atermoiements des adultes. Des listes éperdues, tout ce qu'on veut absolument vivre avant d'être trop vieille. Je l'appellerai esquisse, ce cahier, celle d'une affamée. En ce même lieu, à cette même table, sous le même soleil, des décennies plus tard, écrire encore. L'écriture ne sauve rien. Elle ne raccommode pas plus qu'elle ne répare. Les mots ne retiennent pas de leçons. Ils se proposent sans s'imposer, nous laissent libres, jusqu'à l'égarement. On s'y perd dans l'écriture, mais pas comme dans un labyrinthe. On s'y oublie. Détaché de soi, enfin. L'écriture est sœur du silence et du vacillement. Elle naît du non-dit et se fabrique à bas bruit. Peut-être permet-elle de reprendre un tracé, son souffle, la route. On y était si seul avant de l'écrire. Poste
Scriptum. Devient-on, adulte, celle qui aurait pu nous sauver de notre adolescence?
Février. Madame, nous nous croisons plusieurs fois par semaine. Il nous arrive d'échanger quelques mots, laborieusement, parce que nous ne parlons pas la même langue. Tout autour, ce ne sont que pas pressés, trajectoires décidées vers les grands magasins, les bureaux ou les espaces de coworking. Vous restez là, assise au pied d'un distributeur de banque, non loin de la rue Saint-Lazare. Le savez-vous, madame ? Nous qui tous les jours passons devant vous, sommes des spectateurs. Chaque jour, nous jaugeons la véracité, la crédibilité de celles et ceux qui demandent notre aide. La misère qui nous convainc est celle qui ne nous incommode pas trop. Elle est sans odeur, sans colère, sans discours incohérent, sans haleine alcoolisée. Une misère de cinéma. Il faut, pour nous émouvoir, avoir l'air pour de bon dans le besoin. Mais il faut éviter d'avoir l'air d'être un peu trop dans le besoin. Nous vous évaluons d'un seul coup d'œil, vous et votre sac à dos gris, votre pull turquoise et cette couverture rouge sombre dans laquelle vous vous emmitouflez quand il pleut. Vous et votre blondeur peroxydée, ces cheveux teints qui attirent les regards. Un révélateur est un produit indispensable à toute coloration capillaire. Vous ne pourriez pas être platine sans lui. Et vous, madame, l'êtes également révélatrice. Votre présence oxygénée met en lumière les limites de notre compassion. Vos cheveux font obstacle à notre empathie. Nous le déplorons, ce choix cosmétique. Nous vous voudrions tout entière vouée à votre survie. N'est-il pas superflu ce désir de blondeur pour une personne comme vous ? Nous statuons sur la façon dont vous choisissez de dépenser vos rares pièces de monnaie, à l'image de ces maris, de ces pères, tout droit sortis des années 50, qui surveillaient le bien fondé des dépenses de leur épouse. Il y a quelques jours, vous m'avez poliment refusé une viennoiserie. Vous auriez préféré un sandwich. Un passant qui s'apprêtait à vous laisser un ticket restaurant s'est offusqué de votre remarque. Sa charité ne vous supportait pas en individu exprimant une préférence, un goût ou un dégoût. Celles et ceux que nous secourons, nous les voudrions redevables. Reflet flatteur de notre sollicitude, empli de gratitude dès que nous faisons le moindre geste envers eux. En photo, un révélateur est un bain chimique où l'on trempe le cliché pour faire apparaître l'image encore invisible. Vous avez beau être à terre, madame, vous nous regardez droit dans les yeux et nous renvoyez notre image. Celle de contrôleur traquant l'arnaque, vérifiant qui la mérite bien, sa piécette. Dans un monde où nous nous sommes résignés à élire, faute de mieux, des hommes politiques que nous conspuons, ce triste pouvoir-là, nous nous y accrochons, celui d'évaluer. Il y a quelques semaines, lors des Golden Globes, Kate Blanchett, lauréate du trophée de la meilleure actrice, a proposé qu'on en finisse avec les prix. Une hiérarchie qui oppose les comédiennes les unes aux autres. Si l'industrie hollywoodienne songe à renoncer à ces cérémonies, pour nous il n'en est pas question. Tous les jours, que ça soit sans enthousiasme ou avec empressement, nous répondons à des enquêtes de satisfaction et distribuons les bons et les mauvais points. Ce chauffeur de taxi était-il aimable ? Et ce médecin efficace ? Ça n'est pas tant notre avis que l'on sollicite que notre goût de la sanction, du classement que l'on excite. S'il existait une application qui vous évaluait, madame, vous seriez assurément très mal notée. Elle est laide, cette pensée qui nous traverse quand on vous voit. Si elle a les moyens de se teindre les cheveux. Notre passion pour la bienveillance, ce mot dont on se gargarise à longueur de posts Instagram et d'ouvrages de développement personnel, trouve sa limite. Mais quand, à quel moment, sommes-nous devenus ces connaisseurs blasés, des directeurs de casting de la précarité, des spécialistes de rien qui estimons tout, et vous aussi, madame, comme vos cheveux? Demain, nous passerons devant vous, rapides et affairés, mais nous n'allons nulle part, sans doute le savez-vous. Nous fuyons, terrorisés à l'idée de trébucher, de faillir et de vous ressembler.
just to hold you close to me.
Septembre. Elle rythmait nos quotidiens et à présent elle n'est plus qu'un reliquat du XXe siècle, un objet dont on a quasiment oublié l'usage, une maladie évitable, l'attente. Nous attendions beaucoup, nous attendions tellement de rentrer à la maison pour savoir si le message désiré était sur notre répondeur, le passage du facteur pour une lettre espérée, d'acheter un quotidien pour connaître les dernières infos. Accepter d'attendre aujourd'hui semble être l'aveu qu'on mène une existence de moindre importance. On a mieux à faire. Pas question de se prêter à ce bras de fer avec le temps. De quel royaume autoroute imaginons-nous être les souverains? L'expression « j'ai failli attendre » est attribuée à Louis XIV, lequel n'avait probablement aucune expérience de l'attente, ses serviteurs veillant à ce que jamais cet affront ne lui soit fait. Si je suis, comme nous tous, devenu incapable de me soumettre à l'attente, je dois avouer ma tendresse nostalgique pour un petit rien que nos impatiences ont dévoré. Guetter quelqu'un avec qui on a rendez-vous, comment était-ce déjà ? On était à l'endroit convenu, au coin d'une rue. À plusieurs reprises, on croyait distinguer sa silhouette. Puis, soudain, à l'horizon, on apercevait une mèche de cheveux, un blouson, une démarche. La foule cessait d'être une addition d'anonymat. On n'y était plus seul. On s'était vu. On se faisait face, mais à distance. Quelques secondes interminables pendant lesquelles on s'observait sans pouvoir se parler. La rencontre commençait à cet instant-là. Se regarder approcher était un préliminaire amoureux. On ne se voit plus arriver. Je patiente, mais de mauvaise grâce, en trichant, en contournant l'épreuve. Je me soustrais au présent, remplissant le moindre interstice, consultant incessamment mon téléphone, à l'affût d'un message, d'un signe, d'une annonce de retard, les yeux baissés, rivés à l'écran pour ne rien rater, pour parer à l'imprévu, et soudain, la personne est là, devant moi. À force de chercher à esquiver l'attente, l'événement m'échappe. J'en perds quelque chose d'ineffable, de précieux. Lorsqu'elles sont plurielles, les attentes se font désirables. Puisse-t-on en avoir encore de ces espoirs-là? Au pluriel aussi, ils revêtent d'une dimension collective. Ce sont les attentes des grévistes pendant un mouvement social, celles d'une classe à l'arrivée d'un nouveau prof, les attentes d'un pays entier après un soulèvement populaire qu'on qualifie d'inattendu. Les réseaux sociaux nous ont apporté ceci de bouleversant, savoir que, très loin de nous, d'autres portent leurs désirs à bout de bras, parfois au péril de leur vie. Ils en font des slogans, des pancartes, des textes et des images, nous enjoignant de les faire circuler, nous implorant de ne pas détourner le regard. Leurs attentes ont la vivacité, la fragilité d'une flammèche, la persistance aussi. Elles sont contagieuses, elles déferlent, un courant dont on aimerait dire qu'il est irrépressible. Un élan dont on aimerait croire qu'il ne sera pas brisé. La jeune femme, dont on commémore le décès aujourd'hui, était porteuse des mêmes espoirs que ceux des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens. Mahsa Amini, morte à 22 ans, en détention, après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Il y a tout juste un an, sa silhouette a surgi de l'ombre, d'un pays prison à ciel ouvert. Ce 16 septembre, les familles des victimes de la police iranienne s'apprêtent à essayer de célébrer le premier anniversaire du soulèvement de 2022. Femme, vie, liberté. essayez, car elles sont menacées, arrêtées, emprisonnées, interrogées, flagellées. Les tombes de leurs proches assassinés sont dégradées, détruites. Attendons-les. Attendons-le encore, ce petit point à l'horizon, l'espérance qu'il ne faut pas quitter des yeux.
Printemps. Ne pas se réjouir de l'arrivée du printemps est inavouable. On n'avouera pas qu'elle nous manque déjà les tombées de nuit à 17h, les lampes allumées au réveil. On ne confiera pas qu'on s'en protège du printemps, qu'on souffre de sa brutalité, de cette lourdeur du soleil qui éclaire les peines tapies dans l'hiver. Ne pas honorer le retour des bourgeons, c'est se sentir à l'écart d'une joie partagée. Que la fête commence, on y assistera en voisine. Je n'aime pas le printemps. Sa vigueur m'accable. Cette obligation à la légèreté, à la célébration de la vie, peut-être parce que cette saison est pour moi liée à une disparition. Quel curieux mot pour dire la mort, comme s'il s'agissait d'un tour de magie formidablement réussi. En 1933, l'écrivain Francis Scott Fitzgerald adresse cette lettre à sa fille de 11 ans. Une succession de conseils, parmi lesquels ceux-ci. Ne te soucie pas du passé, ne te soucie pas du futur, ne te soucie pas de grandir, ne te soucie pas de te faire dépasser par qui que ce soit. Ne te soucie pas des échecs, sauf si tu en es responsable. Ne te soucie pas des insectes en général. Ne te soucie pas des parents. Ne te soucie pas des garçons. Ces recommandations qui font lever les yeux au ciel quand on est adolescente. Ces petites phrases qui préparent doucement à la suite préviennent qu'un jour on sera seul. L'absence à venir, inimaginable, des parents est disséminée dans leurs inquiétudes. Leur vieillissement puis leur mort sont le monstre caché sous le lit, celui dont tous les parents promettent bien imprudemment qu'il n'existe pas. Les parents mentent et puis ils meurent, et ils emportent avec eux l'enfant qu'on a été. Un jour, on se surprend à prononcer ces mêmes phrases. On a tellement raillé qu'on nous appelle même tard pour dire qu'on est bien arrivé. On a quitté sa place d'enfant. On est devenu celle qui désormais préviendra des obstacles, guidera, indiquera les pièges. Ça n'est qu'un rôle, mais il semble bien que tout le monde y croit à cette incarnation d'adulte responsable dans laquelle on s'est glissé. On en sourit d'être crédible. Quelle mascarade! Ce sourire est bordé d'une vague tristesse aussi, parce qu'on le sait, en faisant comme si on avait vraiment grandi, on a perdu le privilège d'être consolé, protégé, épargné. On est désormais seul aux commandes, seul en scène, à improviser. On n'est pas prête encore, mais contre qui s'insurger? On claque la porte, mais la pièce qu'on quitte est vide.
Or showed me the way. Have we landed, or we stranded?
Nous vous invitons à poursuivre cette lecture de Lola Lafont, qui nous ouvre la possibilité de faire de nos rencontres quotidiennes un chemin de réflexion. En ce sens, laissons-la conclure. Il y a quelques semaines, au détour d'une ruelle parisienne, j'ai vu ces quelques mots inscrits sur un mur. It was never too late. Une phrase énigmatique pleine d'espoir et troublante aussi, car elle interroge nos choix, ce qu'on fera ou pas du futur. Il n'a jamais été trop tard. Cette émission a été préparée par Monique et Guylaine. Au cours des pauses musicales, vous avez entendu des extraits de l'album « Voyage » de Yoon Sun-na. Nous remercions Claude Michel pour le montage. À bientôt.
Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G. www.radio-g.fr.
Avez-vous le talent de la chanson?
Vous aimez chanter en français?
Rejoignez le concours de la chanson française et tentez de représenter Angers au festival de Toruń en Pologne.
Préparez 5 chansons et envoyez-nous vos enregistrements avant le mercredi 7 mai.
Et venez briller sur scène le 14 mai à la Ruche de Belleveille.
C'est gratuit et les seules conditions, être majeur et disponible du 11 au 15 juillet.
Info et inscription sur angersjumelage@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux angersjumelage. Faites entendre votre voix et vivez une expérience musicale inoubliable.
Hôtel de ville d'Angers, au guichet des titres d'identité.
Mais c'est pas possible. Donc là, j'ai mes photos et vous êtes en train de me dire qu'elles sont pas conformes. Putain!
Monsieur, calmez-vous, restez poli.
T'étais en train de me dire là que j'aurais pas mon passeport à temps du coup.
On va trouver une solution.
Putain, mais je vais péter les plombs! Tu prends ces photos au point!
Monsieur, calmez-vous! Rasseyez-vous, s'il vous plaît!
T'es vraiment qu'une fonctionnaire à la con, putain! J'en ai pas fini avec toi, espèce de connasse!
L'outrage à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public est puni d'une amende de 7 500 euros. Les agents d'Angers-Loire Métropole sont là pour vous. Respectez-les.